Parole d'auteur. Parole d'auteur, Philippe Gilbert.
Si un jour, tout comme Simon, vous rencontrez Madame Sasaki, vous apprendrez qu'il y a des êtres qui, dès qu'ils se rencontrent, se reconnaissent presque aussitôt et marchent d'un même pas. Vous partagerez peut-être cette sensation fugitive d'être en dehors du monde, tout en étant dedans, avec cette impression de vivre comme dans un rêve. Vous deviendrez doté d'étranges pouvoirs à rappeler vos proches à la vie. Vous constaterez alors que la vie n'est pas ce qu'elle nous paraît être, qu'elle n'est pas si concrète qu'on veut le croire, que le réel n'est pas aussi réel que l'on pense et que le rêve enfante seul le rêve. Désormais, pour vous, l'envers et l'endroit, le noir, le blanc, le vrai, le faux, le bien, le mal, seront les faces d'une même pièce et donc la réalité multiple et la vie, comme la mort, n'échapperont pas à cette disparité du monde. Et si telles sont les choses, c'est que vous serez devenu un proche de Madame Sasaki. Et cela signifiera que vous aurez fait le voyage onirique auquel Yves Carchon nous convie dans son dernier ouvrage « Les vies secrètes de Madame Sasaki » paru en 2022 aux éditions Aloès. J'ai donc le plaisir d'accueillir son auteur. Bonjour Yves Carchon et merci d'être des nôtres aujourd'hui.
Bonjour à vous et je suis heureux d'être parmi vous.
Alors, la première question que j'aurais envie de vous poser, je voudrais, après avoir lu votre livre, savoir si vous êtes un fan de Lewis Carroll ou bien un adepte de la métempsychose ou bien un philosophe onirique.
Je serais plus du côté de Carroll, donc Lewis Carroll, qui est un grand-oncle, je dirais, dans la tradition merveilleuse, fantastique même. Voilà, donc je me situe plus dans cette lignée-là qu'autre chose.
D'accord. Alors voyons, on aimerait mieux vous connaître. J'ai compris que vous étiez, ou vous avez été, je ne sais pas, vous l'êtes peut-être encore, un grand voyageur qui a donc vu beaucoup d'univers différents. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu ?
Oui, j'étais d'abord et avant tout un voyageur. C'était un de mes projets de vie d'ailleurs. J'avais deux projets de vie. C'était voyager et écrire. Je pense les avoir réalisés d'une certaine façon. À commencer déjà par le voyage que je considérais comme un aiguillon de la création littéraire. Donc mon idée, c'était de partir voir le vaste monde, ce que j'ai fait à l'âge de 20 ans. Sac à dos, et j'ai découvert l'Afrique, une partie de l'Afrique en tout cas, parce que c'est un continent très important, vaste. J'ai ensuite, je me suis tourné vers l'Asie, du côté de l'Inde. Je suis revenu par la route, d'ailleurs avec mon épouse, nous étions deux à l'époque, qui était elle-même aussi une grande voyageuse. Et nous avons fait des pays comme l'Afghanistan, le Pakistan, la Turquie, l'Iran, des pays qui aujourd'hui, hélas, sont difficiles d'accès, mais qui à l'époque, dans les années 70, étaient grand ouverts, si je puis dire, et restaient une belle cour de récréation pour les Européens que nous étions.
Et donc, je suppose que vous en avez ramené, au-delà des souvenirs, des matériaux dont vous vous êtes servi dans votre écriture ?
Oui, oui, certes. Beaucoup de matériaux que j'ai recensés notamment dans des journaux de voyage, dans lesquels j'ai ensuite puisé, souvent des nouvelles d'ailleurs, parce que j'ai écrit beaucoup de nouvelles, donc beaucoup de nouvelles sont inspirées de mes voyages. Mais pas que, c'est vrai que les romans ensuite ont été inspirés indirectement, on va dire, par les sensations, les impressions que j'avais pu ressentir ou noter dans des carnets de l'époque.
D'accord. Et vous n'avez jamais voyagé au Japon ?
Jamais.
Très bien. Alors, les auditeurs comprendront tout à l'heure. Alors, au niveau de la de votre bibliographie, c'est très très fourni. Et alors, je ne sais pas si je reçois aujourd'hui le romancier, le nouvelliste, le dramaturge, le poète, le conteur ou le chroniqueur.
Tous réunis, je crois. Ouais. Vous les avez devant vous.
Très bien, c'est parfait. Alors, vous avez produit des romans, vous avez produit des pièces de théâtre, des romans policiers, des nouvelles. Quelle est la forme littéraire qui est la plus agréable à écrire pour vous ?
La plus agréable, je dirais que c'est la nouvelle. Mais c'est aussi la plus compliquée, qui demande beaucoup de rigueur, de simplicité dans l'expression, au bon sens du mot, et... un sens du raccourci qu'on ne trouve pas dans le roman, où là on peut s'ébrouer beaucoup mieux et avec plus d'aise, je dirais.
Et est-ce que c'est pas plus difficile d'écrire un roman parce qu'il faut construire une histoire, il faut faire quelque chose de peut-être plus élaboré qu'une nouvelle dans la construction?
Non, moi je ne trouve pas que le roman soit difficile. L'important, c'est de structurer le roman, c'est de partir. Alors souvent, moi, je pars sur un plan que je ne respecte pas d'ailleurs, mais au moins c'est un plan préétabli avec souvent donc la structure qui est déjà en place. Ensuite naissent les personnages qui vont progressivement illustrer, si je peux dire, certaines situations pour créer un climat.
D'accord. Alors, est-ce que vous avez de temps en temps, je dis simplement de temps en temps, peut-être le syndrome de la feuille blanche, ou est-ce que vous écrivez d'une manière très fluide à partir du moment où vous avez décidé le thème et la structure que vous vouliez employer ?
Oui, j'écris assez d'une façon fluide, assez rapidement. Une fois effectivement que j'ai bien arrêté ce que je me proposais de faire et de construire.
Alors, j'aime poser la question à chacun de mes invités pour essayer de savoir ce qui, au fond, les pousse à écrire. Et justement, dans le livre, vous donnez une petite réponse à ce sujet. Page 108, vous dites « Pour moi, écrire, c'est comme bercer un nourrisson ». Et tout lecteur ne cherche qu'à retrouver ce si précieux instant où, juste avant de s'endormir, on nous racontait une histoire. Et de conclure, un écrivain serait en fait un éternel marchand de sable.
Tout à fait, je pense que c'est...
Ça résume bien votre conception.
Ça résume tout à fait, oui.
D'accord. Et est-ce qu'il vous faut des conditions particulières pour l'acte d'écrire, est-ce que vous avez un rituel concret, pratique ou pas ?
Alors, j'ai eu des rituels. Aujourd'hui, je n'en ai plus. Il y avait quelque chose de l'ordre du monastique, je dirais, à une certaine époque. Il fallait que je sois dans un profond silence, que je sois tourné de telle ou telle façon. Je dirais pas face à l'Orient ou l'Occident, mais enfin, c'était à peu près de cet ordre-là. Des manies, on dira, une manière de se rassurer. Je pense que les rituels rassurent énormément, pas uniquement en matière littéraire d'ailleurs. Voilà, aujourd'hui je me sens beaucoup plus libre. Je pense que j'ai appris à écrire un peu, surtout à ne plus avoir peur de m'arrêter dans mon écriture 10, 15 jours pour reprendre ensuite. Chose qu'avant, j'appréhendais énormément, n'étant pas sûr de pouvoir reprendre le fil de mon récit, ou en tout cas la teneur, le rythme, etc. La couleur, j'allais dire, du récit. Parce que je pense que c'est très important. Un roman, c'est un peu composé comme un morceau musical, avec un rythme, etc. Des motifs qui reviennent... en écho, et puis également donc cette sorte de lenteur, voilà. Donc tout ça contribue à la magie de ce qui va devenir peut-être un roman, parce qu'on ne sait jamais tant qu'on n'a pas mis le point final, si le roman qu'on voulait écrire est celui qu'on voulait écrire, et surtout il s'avère qu'on est arrivé au bout.
Voilà, on considère que ce n'est jamais terminé.
Alors, c'est un des grands problèmes. C'est pour ça que j'aime bien la nouvelle, parce que la nouvelle vous permet d'être, d'aller au plus court. Donc, on peut faire plus court qu'au plus court. Bon, mais à un moment donné, on sait que c'est arrêté. Un roman, c'est vrai qu'il peut rester en suspens. Il peut inciter le lecteur à imaginer une suite. Etc. Vous voyez, donc le roman, c'est aussi une école de liberté, je trouve, le roman. C'est-à-dire qu'on... tout à l'heure, je parlais de s'ébrouer, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on part d'un sujet avec des personnages qui, progressivement, vont s'imposer, vont vous guider même. C'est eux qui vont, à un moment donné, être à l'occasion de certaines... situation, vous n'êtes plus tout à fait maître, c'est eux qui dirigent, voilà, c'est un peu tout ça, donc c'est cette confrontation agréable avec les personnages, qu'il faut évidemment aimer. Moi j'adore mes personnages à chaque fois, sinon ça ne fonctionne pas.
D'accord. Alors, pour vous, l'écriture est un acte de long terme. Ce n'est pas un acte qui se fait du premier jet, c'est quelque chose qui se mature finalement et qui est susceptible d'évoluer et jusqu'à la fin, quand vous décidez que c'est la fin finalement. C'est un peu ça.
Oui, c'est un peu ça, voilà. Ouais. C'est une sorte de maturation. Les personnages sont importants dans la mesure où c'est eux qui vont vous donner le là, comme je disais à l'instant. Donc, il faut savoir être à leur écoute, et c'est eux qui vont vous dire comment finir, pour ainsi dire. Ou en finir, je ne sais pas.
Voilà, c'est eux qui vont vous guider. Alors, avant d'aller plus en avant, je voudrais donner quelques informations à nos auditeurs sur vos derniers ouvrages. Alors, en 2021, vous avez publié chez les éditions Kern Deborah Wörth.
Oui.
J'ai noté que vous aviez publié Le Sanctuaire des Destins Oubliés, même éditeur, mais en 2020, et qu'en 2019, vous aviez publié, toujours chez le même éditeur, Le Dali Noir. Voilà. Donc, est-ce que ce sont des ouvrages qui se rapprochent de celui dont nous avons parlé aujourd'hui ?
Oui, alors, pas tous, mais il y en a un, Le Sanctuaire des Destins Oubliés, qui préfigure, j'allais dire, ce qu'on retrouve dans Madame Sasaki. C'est-à-dire que c'est une quête, l'histoire d'un gars qui part à la recherche d'un amour perdu qu'il a connu 20 ans plus tôt à Barcelone. Donc il décide de retrouver Lola, avec l'espoir, évidemment, qu'elle est encore en vie. Et à Barcelone, arrivé à Barcelone, il va rencontrer une quantité de personnages qui ont connu Lola et qui vont le mettre sur sa piste. L'enjeu du livre étant, est-ce que le narrateur va finir par retrouver Lola? Et si oui, dans quelles circonstances, comment, etc. Donc déjà là, il y avait quelque chose d'esquissé. Il y a une grande absente, omniprésente dans tout le livre, qui est Lola.
Voilà.
Il y a déjà le thème de l'absence.
Voilà.
Et donc, enfin, présence-absence.
Et donc, ce parallèle sera plus sensible et, je dirais, plus audible pour nos auditeurs au fur et à mesure que l'émission va se dérouler. Alors, j'ai lu ce livre, naturellement, de manière très, très consciencieuse. Et j'essaye toujours de qualifier le livre que je lis. Et dans ce cas, il y a pas mal de choses qui me sont venues à l'esprit et j'en ai fait une petite liste. Alors, je me suis demandé si c'était un voyage onirique au fond du deuil, une histoire d'amitié japonisante, une utopie entre la vie et la mort, une histoire d'amour à venir, une transgression des tabous sur la fin de vie, une preuve que la vie n'est jamais vaincue par la mort, ou un conte fantastique sur la vie?
C'est tout ça un peu. Je pense que vous avez mis le doigt sur beaucoup de choses. Je dirais que c'est un conte, effectivement, mais pas que. C'est aussi effectivement une histoire d'amitié. Amitié, amour, on ne sait pas, une forme en tout cas d'amour, oui, d'amour, mais au sens beaucoup plus large, bien évidemment, puisqu'on voit bien que ces deux personnages ont une telle différence d'âge, encore que tout est toujours possible, mais on peut s'interroger quant à l'avenir d'un amour éventuel entre deux. Une amitié profonde, oui, certainement. Mais plus que ça, bien évidemment, puisque Madame Sasaki va faire découvrir tout un monde que ne connaît pas Simon. Et c'est aussi... oui, c'est peut-être aussi... on parlait tout à l'heure d'initiation. C'est peut-être l'histoire d'une initiation que Madame Sasaki fait avec Simon, donc.
Nous allons revenir en détail. Pour l'instant, je vous propose de faire une première pause musicale.
When I poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. Yes, I've lost my wife and children, but I have many friends, and some of them are with me out there now. A shelter kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper, without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I will go on. Frontiers are my prison. Ah, the wind is blowing through the graves. The wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from these shadows. I mean these shadows. Dire signe toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. J'ai changé 100 fois de nom. J'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a cachés. Les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous sommes en compagnie de Yves Carchon pour son roman Les vies secrètes de Madame Sasaki, paru en 2022 aux éditions Aloès. Yves Carchon, donc, ce livre, il vient d'où ? au plus profond de vous-même. Pourquoi cette histoire? Pourquoi cette histoire d'initiation? Pourquoi ces thèmes? On va revenir d'ailleurs sur ces thèmes que vous avez abordés. Qu'est-ce qui vous a déclenché l'idée d'écrire un roman de ce type, sur ce sujet et de cette manière? Ça fait beaucoup de questions.
Oui, ça fait beaucoup de questions et souvent les auteurs eux-mêmes ne savent pas précisément comment naissent une histoire. Comment... C'est un peu le cas pour moi, là, pour celle-ci. Encore que, bon, il y a... Alors, je pense qu'au départ, c'est la mort de mes parents, donc qui s'est faite il y a déjà quelques années, mais ça a dû cheminer en moi. Il y a, je pense, quelque chose comme une réflexion autour de la mort qui s'est progressivement construite. Et ensuite, bon, bah, il fallait bien illustrer tout cela, et si possible, le plus légèrement possible. Parce que l'idée, c'était d'aborder donc ce problème qui est la fin de vie. Hein. Aujourd'hui, on dit la fin de vie, d'ailleurs, alors qu'il est si simple de dire la mort, mais comme si on avait peur des mots. Cette fin de vie, donc, comment peut-on l'appréhender? Et puis, la grande question, évidemment, qu'est-ce que la mort? Est-ce une fin? Est-ce un début? Etc. Ce qui traverse tout un chacun, je pense, qui vit en ce monde. L'artiste, l'écrivain est peut-être là pour essayer d'aller un peu plus loin en poussant, en essayant d'imaginer ce que peut être l'après-vie, ce que j'ai fait tout simplement. Voilà, c'était un peu le projet.
Bon, alors pour réaliser ce projet, vous partez du thème de la rencontre et du hasard.
Oui, enfin oui et non. On voit bien que c'est pas tout à fait un hasard, puisque Madame Sasaki, qui a vécu au Japon, qui a d'abord est lyonnaise d'origine, on l'apprend dans le livre, comme moi je le suis, a rencontré son mari, monsieur, donc un dénommé Kazuo, qui était japonais et qui était à Lyon avec les gens de la soirée de l'époque. Et il a embarqué, évidemment, cette jeune lyonnaise au Japon. Ils ont vécu ensemble. Il est mort. Ils ont vécu pas loin, surtout, de la centrale de Fukushima.
Oui.
Et Madame Sasaki, une fois son mari mort, a décidé de rentrer sur Toulouse, puisqu'une de ses sœurs y vivait. Voilà. Donc, elle rencontre un jeune... un type qui a environ 40 ans, Simon. Alors on pourrait le qualifier de doux rêveur, un peu écologiste, qui traverse Toulouse, toulousaine toujours, et qui traverse Toulouse en vélo. C'est un rêveur, mais qui a aussi vécu quelque chose dans sa vie, qui est la mort de sa sœur, Mélanie, suite à l'accident d'AZF. Donc en fait, quand ces deux personnages se rencontrent, Madame Sasaki et Simon, chacun a vécu un drame dans sa vie. Parce qu'on va apprendre plus tard que Madame Sasaki n'est pas rentrée tout à fait intacte du Japon suite à à la situation géographique qui était la sienne, pas très loin de Fukushima. Voilà, donc dire que c'est un hasard, je ne dirais pas ça. Je pense que ça fait partie des logiques que souvent on qualifie de coïncidence, mais de ces vies que nous vivons tous, plus ou moins, si nous sommes un peu attentifs à ce que nous vivons.
Voilà, donc c'est pas vraiment le hasard, on peut dire que c'est la destinée, c'est une sorte d'observation de destinée croisée, quelque part, oui. aussi. Et ce qui se passe un petit peu de manière magique. Alors, on ne peut pas peut-être parler directement de coup de foudre, mais on comprend qu'une amitié très forte va naître. Et elle est spontanée dès le début, cette amitié.
Oui, oui, tout à fait. C'est... Mais comme souvent, ça peut arriver dans la vie, vous allez rencontrer des gens et il y a quelque chose qui se crée. Souvent, c'est difficile à qualifier. Et puis, comme si on les avait un peu connus avant ou reconnus. Ils sont un peu d'une même famille d'esprit, peut-être. Je pense qu'aussi, quand on a vécu des destinées un peu identique, on se reconnaît aussi, je pense.
Voilà, c'est le fait de se reconnaître et de détecter de manière conjointe et réciproque, surtout, le fait qu'on a des atomes crochus assez forts, finalement.
Voilà, hein, c'est ça.
Ça. Alors ça, c'est le premier thème qui est évoqué et qui constitue une bonne partie de votre livre. Alors, le second thème, on en a parlé un petit peu déjà, c'est le rapport à la mort, effectivement, savoir ce qu'est la mort, ce qu'elle représente pour les uns et pour les autres. Est-ce que vous êtes penché sur la différence de conception de la mort, de la fin de vie, en Occident, comparativement à la conception au Japon?
Oui, je pense que c'est tout à fait différent. Il est clair que les Japonais ont une autre vision. À vrai dire, j'ai pas tant travaillé là-dessus que de travailler sur le choc d'une façon générale, la rencontre de deux cultures, mais d'une façon plus générale. Donc sans parler forcément du comment les Japonais vivent la mort, etc. C'était pas tant mon propos que de montrer à la fois de manière de sensibilité, de manière de percevoir la réalité, plutôt. Donc culturellement, effectivement, les choses sont complètement différentes. On voit bien Simon qui est un homme, on va dire, plutôt... rationnel, qui se pose une quantité de questions, à raison d'ailleurs, il y a de quoi.
Tout à fait.
Avec Madame Sasaki, on a de quoi faire. Et on voit une Madame Sasaki qui, elle, est beaucoup plus, enjouée, comme si elle survolait un peu l'existence. Une sorte de, pas de légèreté, mais de d'aisance dans les rapports humains, à vivre une vie, plaisante, amusante même. J'ai beaucoup travaillé là-dessus, sur la psychologie de Madame Sasaki, qui, à mon sens, donne toute la tonalité au livre.
Oui, on sent que Madame Sasaki a un caractère qu'on pourrait peut-être qualifier, entre guillemets, de léger, que rien ne va vraiment l'atteindre, et qu'elle navigue et qu'elle flotte au travers des événements, des aléas de la vie.
Oui, c'est un peu ça, voilà, tout à fait. Voilà. Oui, oui.
Alors, pour faire la liaison avec, effectivement, ce second thème qui était le rapport à la mort, vous avez commencé à l'évoquer, c'est que, est lié directement à ce thème, le thème du rapport à la réalité et à la perception des choses. Et c'est peut-être là que l'on voit une différence marqué entre peut-être l'Occident et le Japon, mais encore plus entre Madame Sasaki et Simon. C'est-à-dire que vous citez, par exemple, vous lui faites dire page 66, la vie n'est pas ce qu'elle nous paraît être. Plus loin, vous nous dites, elle n'est pas si concrète qu'on veut bien le croire. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent. Quelles sont ces choses qui se passent et que l'on ne voit pas forcément?
Ah, alors ça, c'est une grande question. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont souvent des événements sur lesquels on n'a pas prise qui vont faire de vous ce que vous devenez, en quelque sorte.
Et ça signifie aussi que on a une perception du réel qui est fortement influencée par son vécu, finalement. Et ce qui va déterminer un type d'interprétation.
Oui, on peut dire ça comme ça, mais moi je voyais plus la mise en cause même du réel, c'est-à-dire qu'est-ce que le réel et dans quelle mesure, quand on commence à imaginer ou rêver, nous ne sommes pas déjà en train de construire, de fabriquer du réel, si vous voulez. Autrement dit, le réel serait plus le fruit de la pensée. Autrement dit, comment dire, que le monde ne s'est construit que parce que nous l'avons imaginé. Le monde d'aujourd'hui, tel qu'il existe, par exemple, est celui que nous avons construit. Mais nous l'avons construit grâce à un imaginaire qui s'est imposé.
Tout à fait. Et page 12, vous écrivez... alors, c'est à mettre en lien avec l'imaginaire, mais en lien avec le rapport au monde, d'une manière fugitive, cette sensation d'être en dehors du monde tout en étant dedans. C'est-à-dire, c'est le fait de dire « j'appréhende le réel qui constitue en lui-même un monde, mais je n'y suis peut-être pas non plus ».
Oui, c'est peut-être la perception que peut avoir un écrivain du monde. En tout cas, c'est la mienne. Mais je pense que ça participe, l'écriture vous amène à vous poser des questions fatalement, notamment sur qu'est-ce que le réel, puisque vous êtes d'une certaine façon en train d'en produire. Quand vous écrivez un roman, quelque chose va naître, qui sera donc un roman, qui deviendra un objet, que d'autres vont lire. Donc vous allez faire un lien, et donc vous allez créer d'une certaine façon une réalité nouvelle. Sachant que ce livre va peut-être avoir des échos chez les lecteurs, qui eux-mêmes vont être amenés à regarder le monde autrement.
Et, ou au moins à se poser des questions. Ce qui m'est fortement arrivé et ce que nous allons examiner juste après cette nouvelle pause musicale.
Pendant que je rêvais, les aiguilles ont tourné. Il est trop tard. L'enfance est si loin, on est déjà demain. Passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. Pendant que je t'avais, l'amour s'en est allé. Il est trop tard, tu étais si jolie, je suis seul dans mon lit. Passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. Pendant que je chantais, ma chère liberté, d'autres l'ont enchaîné. Il est trop tard, certains se sont battus, moi je n'ai jamais su
passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. Pourtant je vis toujours, pourtant je fais l'amour, m'arrive même de chanter.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous sommes toujours en compagnie de Yves Carchon pour ce roman « Les vies secrètes de Madame Sazaki » paru en 2022 aux éditions Aloès. Yves Carchon, pourquoi ce choix de Georges Moustaki ?
Ah, ben c'est Moustaki, c'est les années 70. C'est le portrait grec. Je pense aussi à la Grèce des colonels. Enfin voilà, tout ça, c'est. Il y fait allusion dans une chanson où il dit que sa liberté, on l'a enchaînée. Donc à un moment donné, c'est un ami de Mélina Mercouri. Voilà, donc c'est une époque bien lointaine, mais qui nous a forgé gens de cette génération.
Alors, revenons à Madame Sazaki. Alors, le monde de Madame Sazaki, est-ce que vous pourriez nous le décrire de manière à ce que nos auditeurs puissent peut-être avoir un petit peu plus de précision sur le personnage ? Alors, tout d'abord, Madame Sazaki, elle habite à Toulouse et elle habite tout près des studios de Radio Présence.
J'avoue ne pas l'avoir fait exprès. Mais c'était effectivement, on pourrait parler de, voilà, de ces choses qui se créent, dont on parlait à l'instant, qui, voilà, on ne peut guère en dire plus, sinon d'être surpris par cette proximité. Oui, Madame Sasaki habite effectivement le quartier. Un appartement assez clair, on va dire. Et notamment, elle a avec elle pas mal de. Elle a une pièce réservée essentiellement à ses orchidées, dont elle est passionnée. Et elle a également un vivarium, un terrarium, donc, où se trouvent des animaux tels que un serpent, un iguane, des tortues, etc. Tout un bestiaire, on va dire, qui fait partie de son existence.
Et alors, elle a un rapport particulier avec ces animaux ? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions sans dévoiler le moins possible, parce que ça constitue quand même une grande partie de l'intérêt du roman.
Oui, alors elle a aussi un chat, hein.
Oui.
Et ce chat, évidemment, c'est un chat, mais ça peut être aussi une sorte de réincarnation de Kazuo, son mari, qui va de temps en temps apparaître sous ses véritables traits. Donc Kazuo étant mort, évidemment, va réapparaître au gré des déambulations du chat dans l'appartement. On va voir disparaître le chat dans une pièce et réapparaître Kazuo à la place du chat. Voilà. Donc ça, c'est une décision qu'a prise Madame Sasaki de laisser ses morts revenir à la vie. Elle en a le pouvoir et elle décide de les faire revenir quand bon lui semble. Voilà, donc ça fait partie un peu de sa vie, de même qu'elle a un ancien amant qui se trouve être aussi sous les traits de l'iguane du terrarium et qui va, selon les circonstances, apparaître aussi tel qu'il était dans sa superbe des années plus tôt.
Donc, Madame Sazaki a un pouvoir, puisque c'est elle qui décide, en quelque sorte.
Tout à fait. Alors, au départ, elle ne sait pas. Alors, il semblerait que suite à des fuites de la, de la centrale à Fukushima, il y a eu des transformations un peu insolites, notamment parmi les animaux du site, mais semble-t-il aussi parmi les humains. Et donc, Madame Sasaki, semble-t-il, s'est transformée progressivement au point d'acquérir certains pouvoirs, dont celui de pouvoir convoquer les morts, des gens qu'elle a pu connaître, qui sont morts, et de les faire revivre l'histoire d'un instant.
Voilà, donc. Et ce pouvoir, ce don, on s'aperçoit au fil de l'histoire, que peut-être il est contagieux, ou il est transmissible, peut-être. Et ça procure, avant qu'on en tire la conclusion, ça procure un très très gros suspense. Et personnellement, à la lecture, je me suis dit... Quand est-ce qu'il va nous lâcher le suspense? Quand est-ce qu'on va comprendre? Sans être certain d'avoir bien suivi l'histoire. Parce que la manière dont c'est habilement écrit, on cherche. Et le moment où personnellement j'ai compris que là, on allait aller loin, c'est au moment où Simon, sur son lieu de travail... aperçoit une silhouette. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette silhouette?
Alors, cette silhouette, c'est donc l'ancien amant de Madame Sasaki, de Mitsuki, c'est son prénom. Mitsuki, donc, a eu un amant qui était diplomate, on va dire, qui a dû rentrer en France. Ils se sont perdus de vue. Il est mort. Et elle décide de le convoquer, mais sous la forme... Mais elle a décidé qu'il renaîtrait, en tout cas, selon sa volonté, sous la forme d'un iguane. Et donc un iguane a une crête. Ça fait partie de ses particularités, on va dire. Et donc quand cet amant, qui s'appelle D'Alembert... ressurgit un peu au monde, il porte une crête, évidemment, sur le crâne. Voilà. Ce qui le différencie, évidemment, un peu des autres humains.
Alors, j'attire l'attention des auditeurs sur ce passage, parce que je trouve que c'est un passage, c'est la bascule. On comprend qu'on est vraiment... j'allais dire, on a été entraîné par Yves Carchon... dans un monde complètement onirique. Et moi, personnellement, je m'en suis vraiment rendu compte. J'en ai pris conscience. Vous savez pourquoi? Au moment où Simon décrit les conditions d'apparition de ce personnage, et il comprend que le personnage, il est rentré dans le périmètre de l'usine Airbus en coupant le grillage. Et là, je comprends que Yves Carchon... exagère, parce que ayant travaillé très longtemps à Airbus, dit qu'on n'a pas le temps de couper un seul maillon du grillage. Alors, pour en revenir à Madame Sasaki, la relation qu'elle a avec Simon, comment on pourrait la qualifier?
Alors, c'est une amitié au départ. Je pense qu'elle est séduite par ce quadragénaire qui est un peu rêveur à qui elle décide de léguer certains de ses pouvoirs. Voilà, tout simplement parce qu'il a, je dirais, une sorte de naïveté. C'est pas un grand guerrier, hein, Simon. On sent sa fibre un peu écologiste, on sent qu'il... c'est un doux, c'est un tendre. Et donc, il est peut-être prédisposé, en tout cas aux yeux de Madame Sasaki, pour hériter de certains pouvoirs qu'elle détient. Je pense que dès le départ, Madame Sasaki, mais ça j'en suis pas sûr, hein, mais je pense que dès le départ, elle sait... qu'elle va pouvoir compter sur lui pour prendre le relais d'une certaine façon quant à cette manière de percevoir le monde. Et que lui-même peut-être le transmettra.
Alors donc, on arrive effectivement au thème de la transmission. En parallèle à ce thème de la transmission, on peut aussi se poser la question de Madame Sasaki va faire bénéficier Simon de ses pouvoirs et donc il pourra en user à l'avenir, mais peut-être aussi que ça va lui permettre à elle d'être accompagnée vers les moments ultimes.
Oui, alors ça c'est clair. Au départ d'ailleurs, je voulais... je l'avais écrit d'ailleurs, on apprend très tôt qu'elle est atteinte d'un cancer, madame. Je l'ai enlevé au début parce que j'ai pensé que le lecteur devrait le découvrir progressivement. Et je pense que c'était... assez... Mais donc au départ, je savais qu'elle allait vers une fin inéluctable, comme nous tous. Mais là, c'était d'une façon attendue, on va dire. Et donc, effectivement, elle pense aussi à Simon comme étant un compagnon qui va l'aider à faire le pas. Voilà. Et là, on peut effectivement évoquer la fin de vie, etc. Enfin, alors, je pense que c'est des thèmes... Quand on écrit, je pense qu'on est irrigué comme ça par tout ce qui se passe autour de nous, par la vie, par les sujets du monde, les préoccupations. La fin de vie, effectivement, fait partie de ces préoccupations. On n'a jamais autant parlé de comment mourir, en fait. Encore que, enfin, les anciens nous le disaient, comment mourir. Les stoïciens et d'autres. Mais c'est vrai qu'on l'avait un peu perdu. Là, il semblerait qu'on essaye de voir si on ne pourrait pas mourir dans la dignité, etc. Chose qui, il y a encore 50 ans, était tout à fait obsolète. Enfin.
Et donc, quelque part, dans ce roman, on sent qu'il y a peut-être, si ce n'est une solution, une réponse, justement, à cette question existentielle, laissée au libre choix du lecteur, hein, finalement.
Tout à fait, oui. C'est au lecteur à voir, à choisir. C'est au lecteur à aller plus loin, peut-être, dans la réflexion.
Alors, un petit instant, si on s'attardait sur la manière dont vous avez écrit, le style que vous avez travaillé.
Oui.
On sent à la fois de la sobriété, de la poésie, de la magie, de la sensualité et plus d'ailleurs. Hein. On sent la cuisine japonaise aussi. Alors, comment vous avez travaillé tout ça ?
Ah ben, ça c'est le travail de l'écrivain. Alors, je pense que je voulais aussi, oui, effectivement, vous avez parlé de sensualité, donc j'ai tenté, en tout cas, de matiner un peu le récit de sensualité, et notamment à travers la cuisine japonaise, mais aussi par rapport aux vêtements que peut porter Madame Sasaki. J'ai voulu aussi être le plus simple possible dans l'expression, et rien n'est plus compliqué que d'être simple. Voilà, donc la poésie aussi, je le prends parce que j'ai travaillé aussi dessus. Voilà, c'est toujours compliqué hein, de parler de son travail.
Alors, c'est effectivement, mais c'est compliqué... Et à vous entendre, c'est compliqué de parler de choses simples, hein, finalement.
Tout à fait.
Alors, pour résumer votre style, non, pour résumer, pour donner, pour illustrer votre style, pour être plus exact, moi, il y a une phrase qui m'a beaucoup plu et qui témoigne de l'affinité entre les deux personnages principaux, qui est la suivante. J'eus tout loisir de mesurer que l'infusion du thé était la métaphore de l'infusion de nos pensées. Et là, dans la relation entre les deux, on peut dire que tout est dit, quelque part.
Oui, voilà. C'est ça, tout à fait.
Voilà. Donc, pour nos auditeurs, je voudrais que l'on conclue simplement, je vais lire l'épigraphe de l'ouvrage. Et je pense que ça vous donnera, chers auditeurs, envie de lire, encore plus envie de lire cet ouvrage. C'est « Aux morts, parfois plus proches que les vivants ». À méditer. Yves Carchon, le prochain ouvrage.
Ah, le prochain ouvrage, c'est un roman policier, parce qu'il m'arrive aussi de commettre des romans policiers. Et donc, voilà, ce qui va se passer à Pau, c'est une sorte de roman policier avec un découplable, on ne sait pas. Voilà, donc tout cela, un bouquin qui va sortir en mai et qui s'intitule « Crime à Pau » et pour sous-titre « Six petits palois ».
Très bien. Donc, nous nous donnons rendez-vous à Pau, c'est promis. Bon, merci beaucoup Yves Carchon pour ce roman « Les vies secrètes de Madame Sasaki » paru, je le rappelle, en 2022 aux éditions Aloès. Au revoir à tous et merci à nos auditeurs pour leur grande fidélité.